Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu ce soir. Donc ce soir, on a une rencontre autour du livre, donc La révolte de la psychiatrie, les ripostes à la catastrophe gestionnaire, écrit par Mathieu Bellassane, ici présent, et Rachel Knebel, qui devait être là ce soir et qui finalement ne pourra pas venir à cause des histoires, entre autres, de Covid. En discussion, donc Mathieu Bellassane, psychiatre, directeur de service à Asnières, c'est ça ? Je me trompe. Et donc militant. Et avec lui pour discuter du livre, Jean Vigne, ancien infirmier psy et militant également, syndiqué Sud pendant longtemps sur Toulouse, notamment sur l'hôpital du coin. Et voilà.
Non, juste pour excuser. Alors, il y a Rachel Knebel qui, en fait, habite à Berlin. Et en fait, si elle vient, il faut qu'elle reste après en quinzaine en Allemagne. C'est le bordel. Donc, elle n'a pas pu venir. Et puis, Lauriane Bellassène, qui a écrit le chapitre sur l'autisme, qui n'a pas pu venir aussi parce que notre avion collectif avec les enfants a été annulé. Du coup, je suis venu tout seul. Et donc, voilà. Donc, c'est pour excuser parce qu'on devait être tous là, normalement. Voilà. Peut-être juste en préambule quand même du bouquin, vous raconter juste un petit peu l'histoire, pourquoi ce livre, et puis après c'est toi qui fais la discussion, mais je fais l'introduction, on va dire, c'est ça ? Ouais. D'accord. En fait, ce livre, il vient d'une rencontre qui est que Rachel Knebel, donc, qui est journaliste à Bastamag, elle a fait une série de 4 articles sur la psychiatrie en 2018, et dont un porté sur la Fondation Fondamentale, qui est donc une fondation qui est liée à l'Institut Montaigne, donc qui est le think tank néolibéral qui a fait toutes les réformes récentes dans la société, assurance chômage, réforme le travail, l'école. Toujours sur le même modèle, il y a des associations ou des fondations qui sont financées par Montaigne et puis qui, après, infiltrent l'appareil d'État et font les réformes, etc. Bon. Et l'éditeur François Gèze, de La Découverte, il lit le bouquin de Fondamental qui s'appelle « Psychiatrie, l'état d'urgence », un truc comme ça, fait par Le Boyer et Lorca. Et quand il le lit, il se dit « Ah bah oui, c'est bien, enfin, que la psychiatrie, ça bouge un peu et tout ». Et puis, il lit l'article de Rachel, et puis il se dit « Bah merde, je me suis fait complètement avoir ». Et donc, il faudrait un bouquin qui raconte aux premiers concernés, c'est-à-dire aux psychiatrisés, aux usagers, enfin, les gens, ils se dénomment comme ils veulent, hein, on ne va pas en faire des histoires, voilà, aux patients, aux usagers, etc. Bon. Et aux familles, que, à la fois, c'est quoi cette histoire de la psychiatrie et pourquoi ceux qui en sont les fossoyeurs actuels se disent en être les héros et les sauveurs, d'où ça vient. Et l'autre chose, c'est qu'est-ce qu'il y a dans les pratiques quotidiennes, courantes, microscopiques, qui s'instituent un peu comme des zones de lutte potentielles à l'intérieur de la psychiatrie et dans la société de manière microscopique, mais qui existent comme lutte, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu cette rencontre-là. Et puis, moi, avant la proposition du livre, on était à Reims, il y avait un colloque, les rencontres de la Criée, c'était en mai 2018. C'est le moment où les collègues du Rouvray, donc qui est cet hôpital psychiatrique à côté de Rouen, ont commencé une grève de la faim. Et on était bien emmerdés parce qu'une grève de la faim, c'est quand même une lutte compliquée à penser. parce que c'est très mélancolique. Alors ça, c'est le psychiatre qui parle, mais dans le sens où on met son corps en jeu, mais son corps qui est en cours de destruction, quoi. Et donc, on n'était pas à l'aise avec ça. Bon, il y a une discussion dans la salle, et puis on se dit, bon, ben, il faut faire quand même une caisse de grève. Et puis, à partir de là, ça a flambé, quoi. Il y a eu un embrasement, il y a eu Le Havre, il y a eu l'Épinal en lutte à Amiens, il y a eu plein de lieux. Et moi, je me disais quand même, il y aurait un livre à écrire sur comment les zones de lutte politique instituent un autre rapport à la clinique. Alors, c'est quoi cette affaire-là ? Instituent un autre rapport aux gens dans les institutions, notamment avec les patients, les psychiatrisés. Bon. Et comment, en fait, des gens qui n'avaient pas forcément de formation ou d'espace d'ouverture dans leur tête pour accueillir ce que disent de juste et d'absolument à partir duquel on doit travailler de la part des patients, que dans l'espace de la lutte, sous l'espace du barnum, de l'attente, du rond-point, enfin, il y a eu plein de formes comme ça, eh ben, ça devenait possible parce qu'on partageait une lutte et du coup, ça décalait les places de chacun. Donc, il faudrait penser un livre où finalement, comment la lutte politique crée un autre rapport clinique. Voilà. Et puis, bah, il se trouve qu'il y a eu cette rencontre et que dans la deuxième partie du livre, on essaye un peu de commencer à développer ça. Voilà, en guise d'introduction générale et très rapide. Et oui, ici, un autre truc, comme on n'est pas trop phobique, hein, il ne faut pas hésiter à intervenir, même si ça bordélise les choses, mais dans le micro pour que ça soit enregistré, c'est ça ? Idéalement. Voilà, vous n'hésitez pas à ce que ce soit un échange comme ça, quoi. Hein, voilà.
Oui, bonjour. Moi, je voulais parler un peu de toi. Non, c'est... On s'est rencontrés la première fois, c'était au 39, l'appel des 39. Et t'as toute une carrière d'infirmier psy, on lit souvent des écrits de psychiatres qui ont pignon sur rue, qui sont diffusés un peu dans tout le milieu. Et quand on rencontre les soignants qui travaillent dans les services où exercent ces psychiatres qui écrivent, on se rend compte que la réalité n'est pas toujours la même. Et que celle qu'ils décrivent, elle est peut-être souvent plus belle que celle qu'ils vivent et celle qu'ils animent au quotidien. C'est pas du tout le cas de Mathieu. Non que j'ai travaillé à son service, mais j'ai rencontré pas mal de gens, mais je l'ai vu à l'œuvre. C'est-à-dire qu'à partir des 39, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu l'occupation de la place de la République pendant 2 mois à Paris. Donc, il y avait une structure qui s'était montée, qui s'appelait Psy Soins Accueil. Et là, il y avait une à deux fois par semaine, selon les effectifs, et bien, on animait des débats, des groupes de parole, etc. Et j'ai pu voir Mathieu à l'œuvre, parce que les premières personnes qui viennent quand on ouvre ces espaces, c'est des gens qui ont beaucoup à reprocher à la psychiatrie, de façon plus ou moins véhémente et plus ou moins sous différents produits. Et là, on a été quelques-uns, dont Mathieu, à pouvoir accueillir ces personnes, sans institution autour, sans mur, sans renfort, sans rien, et pouvoir petit à petit discuter, entendre, comprendre, apaiser. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué par rapport à la façon dont on pouvait accueillir. Mais d'un autre côté, quand il fallait se battre, quand il fallait trouver des idées, quand il fallait aller au ministère, il était là aussi. Je ne sais pas combien tu as de clones, hein, parce qu'à un moment donné, c'est un peu compliqué pour faire tout ça. Mais vous pouvez l'imaginer avec des lunettes noires, en perruque blonde, invectivé Marisol Touraine, en se faisant passer pour sa sœur. Voilà, mais c'est le tournesol. Mais comme tu l'écris dans le bouquin, rire ensemble, mais pas rire de quelqu'un. Je pense qu'on a passé pas mal de moments aussi où on a pu rire, imaginer et essayer de mettre en œuvre, de mettre en acte les révoltes qu'on essayait de porter. Voilà, c'était un peu pour vous situer, Mathieu. Bon, on va prendre les questions.
Si, ouais. Alors, il y a un truc important, parce que moi, quand j'ai commencé la psychiatrie, d'ailleurs, quand on avait fait la rencontre sur la santé mentale il y a 6 ans, j'ai un petit peu parlé de d'où je venais sur la question. L'autre jour, on était invité à Libertalia, là, une librairie à Montreuil. Et donc, le copain de Libertalia a dit « D'où tu parles, camarade ?» C'était ça, la première question. Alors bon, c'était une drôle de question, c'était un peu daté, tout ça. Mais c'est important quand même d'où on vient et comment on rencontre le champ qui va être notre champ de travail, mais qui va être notre champ de vie aussi. C'est-à-dire, c'est une rencontre avec un lieu. Alors, en l'occurrence, c'était le Centre Artaud à Reims. Avec, j'étais en deuxième année de médecine, je connaissais rien à la psychiatrie. Je me pointe, je me fais accueillir par des gens, je ne sais pas qui est soignant, qui est patient là-dedans. Et puis, j'ai des discussions que je n'avais jamais eues avec personne avant. Et puis, alors, ça m'a troublé, ça m'a absolument ouvert au monde. Et puis, je me suis dit, purée de merde, il faut que cette intensité-là, ça puisse être ça, mon exercice professionnel. Et puis, le lieu dans lequel je baigne. Et puis, souvent, les patients, quand ils disent, j'étais de garde hier soir, en passage, il y a un patient qui me dit, mais vous êtes tout le temps là, en ce moment. Je suis, oui, j'ai besoin de me soigner beaucoup en ce moment parce que c'est la merde. Hein. Ah oui, c'est vrai que les psychiatres sont un peu fous. Bah oui, on passe quand même la plupart de notre temps à l'hôpital psychiatrique, au CMP, donc on a vraiment besoin de lieux de soins aussi un peu pour nous. Bon, il ne faut pas trop se soigner sur le dos des patients quand même. Hein. Mais tout ça pour dire que ces rencontres-là interhumaines ont toujours été absolument fondatrices, importantes. Et dans ces rencontres, il y a une dimension, là, ce que tu racontes, la tournesol migraine, où je me déguisais en tournesol migraine là, pendant les manifs contre les GHT, c'était les groupements hospitaliers de territoire, vous savez, où vous prenez plusieurs hôpitaux, vous les fusionnez, il n'y a plus qu'un directeur, et puis on vous dit, mais non, en fait, c'est juste pour faciliter la fonction achat, les fonctions support, etc. Et en fait, c'est pour transformer 4 hôpitaux en un seul, et puis on ferme des services, etc. Bon. Et la dimension de l'humour et de la créativité, si elle est fondatrice dans les soins, si on ne la retrouve pas aussi dans le militantisme, et si nos lieux ne sont pas des lieux aussi où on prend soin des relations entre nous, et où finalement, quand on est avec les gens, etc., ça nous fait du bien, il faut arrêter. C'est-à-dire que, et c'était ça un petit peu le truc compliqué d'arriver en psychiatrie dans un moment où des gens avaient connu entre guillemets l'âge d'or alors qu'il n'y en a jamais eu, c'est-à-dire que les gens qui ont dit oui, moi j'ai connu l'âge d'or, les services qui s'ouvraient, n'empêche qu'il y avait des maltraitances, des patients qui se faisaient violer, des gens qui se faisaient casser la gueule, bon bref. La question c'était, on arrivait avec Lauriane, donc on était internes ensemble, et puis on se retrouvait dans un paysage où les gens nous racontaient un truc qu'on n'avait pas vécu. Et puis en disant, de toute façon, tout est foutu. Bon, alors super, tout est foutu, il me reste 40 ans à bosser. Je ne peux pas fonder mon exercice professionnel sur tout est foutu. Bon. Donc, comment on va essayer de créer des espaces vivants? Et alors, là, je saute plein de chapitres, mais je pourrais peut-être quand même vous... Peut-être avant les questions, c'est un peu intimidant, faire un petit panorama des quelques chapitres. Mais... Il y a un truc qui était important pour nous, c'est à la fois la créativité et surtout supporter le fait qu'il y ait des formes nouvelles qui apparaissent, qui émergent, qu'on ne sache pas par avance vers où ça va aller. Alors, dans une de ces formes nouvelles, il y a le truc qui est hyper important pour nous. Le truc, c'est le terrain de rassemblement pour l'utilité des clubs, les clubs thérapeutiques. Et alors, je sais pas si vous... Est-ce qu'il y a des gens qui sont complètement novices en psychiatrie ou est-ce que tout le monde connaît? Est-ce qu'il y a des novices qui connaissent rien? Super. Bon, alors, surtout s'il y a des trucs que je dis, qui sont incompréhensibles, il faut m'arrêter raide et puis que j'explique. Les clubs thérapeutiques, c'est au moment de l'après-guerre, etc., c'est une zone dans l'institution où finalement il va y avoir des espaces de codécision entre les patients et les soignants, c'est-à-dire à la verticalité hiérarchique entre soignants, donc médecins, infirmiers, patients. On va opposer une tentative d'horizontalité qui est que dans l'association, dans le club, on décide et notre voix, elle est la même chacun. Alors, elle est la même, mais n'empêche que quand le psychiatre il vote pour un truc, ça fait des effets un petit peu différents que si c'est le patient qui délire tout le temps. Bon. Donc, ce n'est pas de l'horizontal complet. Quoi. C'est-à-dire qu'on essaye d'être sur une ligne qui va un peu horizontaliser les choses. Bon. Donc, ça, c'est les clubs thérapeutiques, des espaces de co-décision, de fabrique du commun. Quoi. Mais c'était des espaces qui étaient réservés au lieu de soins et dans le lieu de soins. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez les expériences mythiques de l'hôpital de Saint-Alban, Lozère, avec Toscaïès, Bonafé. Vous avez le bouquin de Didier Deninx, La cachée dans la maison des fous, qui raconte cette histoire-là. C'est un roman où, pendant la Seconde Guerre mondiale, s'invente un courant de la psychiatrie qui, avant l'arrivée des neuroleptiques, donc les médicaments qui tassent un petit peu les délires, on va dire, vont casser les murs et vont rendre les gens actifs. Et en rendant les gens actifs, les patients psychotiques, schizophrènes, etc., eh ben, leur activité va les soigner et va soigner le lieu lui-même, quoi. Et le lieu va devenir soignant. Bon. Mais alors, la nouveauté, là, depuis 10 ans, finalement, c'est que c'est plus cantonné à des lieux. Là, il y a une sorte d'archipélisation des lieux. Et avec le truc, en fait, on se retrouve des collectifs de soins de plein de lieux différents, de toute la France, et tous les 3 mois avant, jusqu'avant le confinement. On faisait des réunions, on organise un forum interclub tous les ans, et c'est très vivant. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est sur une base d'amitié, en fait, où les gens qu'on rencontre, bah, ça devient des amis au sens où on ne fait pas copain-copain, parce que y a des soignants et des patients, il faut faire gaffe un petit peu à ce qui se joue dans les relations. Mais on est content de se voir, et c'est hyper vivant. Et moi, quand je reviens, alors, je suis médecin-chef, donc je me tape toutes les conneries avec l'administration, les directions, les ARS, etc. Quand je reviens du truc, bah, je me sens mieux. Et puis, je peux me bastonner un peu plus avec les couillons du coin et puis avec mes couillonneries à moi. Et ça permet un petit peu d'avoir un imaginaire autre que l'imaginaire actuel, imaginaire entrepreneurial, néolibéral, tout ce que vous voulez, un imaginaire un peu plus du commun. Bon. Donc ça, c'est des formes nouvelles. Et dans la dernière partie du bouquin, c'est un petit peu ça le pari, c'est d'essayer de recenser quelles sont les formes nouvelles. Mais alors, il y a 2 façons de faire une forme nouvelle dans le moment dans lequel on est. Faire des clubs thérapeutiques, là, maintenant, on peut dire les clubs thérapeutiques, c'est une vieille histoire, la psychothérapie institutionnelle, l'après-guerre, etc. Mais les faire maintenant, sur le support actuel, qui est un support où le néolibéralisme, il a atomisé les liens, il a fragmenté les gens, où finalement, participer à des espaces de codécision réelle et de démocratie concrète réelle, ça ne va plus de soi, puisque bon, là, la démocratie représentative telle qu'elle nous est vendue à longueur de journée, tout ça, c'est de la com. Mais on est tous imprégnés de cet imaginaire-là. Et du coup, il faut aussi destituer cet imaginaire-là et instituer un autre truc. Bon. Donc, voilà, forme nouvelle. Et puis, vous avez aussi, par exemple, je vais vous lire un petit truc, là. On fait là, dans le secteur où je travaille, là, on fait un journal, là, et tout. Alors, pour la petite histoire de et tout, on s'est dit avec des collègues, copains et tout ça, bon, il faut qu'on fasse un journal sur l'unité d'hospitalisation et puis sur le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. Bon. Et puis, voilà, on commence à parler, blablabla. Et puis, à un moment donné, on se dit qu'il faut trouver un titre. Et puis, alors, il y a un mec qui ne parle jamais parce qu'il est un peu autiste et tout ça, qui vient sur Asnières parce que l'hôpital psychiatrique est à 35 km de là. Il vient, et puis ça faisait 5 ans qu'il n'était pas sorti de l'hôpital, ce gars-là. Et puis il nous dit, il nous fait comprendre que c'était son école quand il était gamin. Bon, ça fait des histoires, quoi. Et puis il était dans le fond de la salle, il fout le bordel. Et à un moment donné, j'entends et tout. Alors, il y en a qui disaient, on n'a qu'à appeler le journal Les Voix d'Asnières. Bon, pourquoi pas. Le Monde, bon, c'était déjà pris. Et lui, il fout le bordel et il dit et tout. Bon, et à ce moment-là, les gens votent. Et puis lui, comme on est dans les Hauts-de-Seine, c'est Balkany, c'est à côté. Alors, il serre la main de tout le monde et tout. Il achète les voix. Et donc, c'est et tout. Et donc, le journal s'appelle et tout, hein, vous voyez. Le mec qui ne parlait pas, qui donne le nom au journal. Et puis surtout, après, on a fait une association, etc. Bon, et au fur et à mesure du travail, le journal, il permet aussi de travailler notre aliénation locale. C'est-à-dire que dans le groupe, on parle de qu'est-ce que ça fait d'être en chambre d'iso, qu'est-ce que ça fait de prescrire une chambre d'iso, qu'est-ce que ça fait. Bon, on travaille tout ça, quoi. Et puis, sur la place de la République, et ça, on le raconte dans le bouquin. C'est un moment, je crois, c'est dans le début du bouquin. Donc, vous allez avoir tous ces lieux qui vont flamber en 2018. Et puis, fin 2018, vous avez les Pinels en lutte. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que les lieux qui flambent, quand on parlait du collectif des 39, c'était que des militants de la psychiatrie qui se bougeaient. C'était des psychiatres, des psychologues, des gens en position de pouvoir ou de savoir dans les institutions. Il n'y avait pas tellement d'infirmiers. Il n'y avait pas tellement d'éducs. C'était, au fond, les gens qui s'étaient toujours bougés, mais qui avaient une facilité avec la parole, avec le militantisme, comme ça. Bon. Et quand il y a eu cette flambée, moi, je me suis dit, putain, enfin, il va y avoir les gens qui tiennent les lieux, vraiment. Quoi. C'est-à-dire qu'ils ont affaire avec les gens au quotidien, qui se bougent, c'est-à-dire les infirmiers, les aides-soignants, les ambulanciers, les techniciens. Enfin bon, voilà, dans un hôpital, il n'y a pas que des soignants, il y a un peu tout le monde, quoi. Et donc, les Pinels en lutte proposent à Amiens, avec l'aide de Ruffin, les gens de Fakir et tout ça, une déambulation festive, un colloque, etc. Une journée, c'était en novembre. Et puis, ils appellent à un truc national en janvier 2019 sur la place de la République, où après, on irait devant l'Assemblée nationale. Bon. Et alors, le matin, sur la place de la République, il neigeait, c'est à Paris. Et puis, vous avez quelqu'un qui arrive au fond de la place avec des caméras, qui se fait filmer, des radios, puis qui part. Et puis, nous, on installe les trucs. Et puis, il y a des prises de parole. Et notamment, il y a prise de parole que je vais vous lire, là, qui est dans et tout, qui sera en vente, 5 euros et ou plus, et tout, c'est pour l'association, qui se fait filmer, donc, cette personne. Et donc, on se remue, prise de parole, on va jusqu'à l'Assemblée nationale. Là, il y a Martine Vonner, la psychiatre de l'Assemblée, La République en marche, qui... alors maintenant, elle n'est plus La République en marche, elle est partie... mais qui est liée aux cliniques privées, à tout un tas de choses comme ça, qui avant était directrice médicale du SAMU de France. Voilà. On la prend à partie, et puis on la prend à partie contre Fondamental, donc cette fondation liée à l'Institut Montaigne. Et elle dit, mais... vous êtes contre Fondamental, ça veut dire que vous êtes contre la recherche, donc vous êtes contre la science, donc vous êtes des réactionnaires. En gros, c'était ça. Il y a des vidéos qui le prouvent, ce truc-là. Et on lui dit, ben non, on n'est pas contre la recherche, on est contre le détournement d'argent, qui est de faire passer le fait que la recherche, c'est des soins. En fait, quand vous faites de la recherche en psychiatrie, vous ne faites pas des soins. Et tout ce qui arrive là comme réforme, la T2C, la tarification de compartiment qui arrive... qui va réformer la psychiatrie à partir de janvier. Donc c'est comme la T2A qui a détruit l'hôpital public, c'est la T2C. Eh ben, ils vont la mettre en place et ils se disent, voilà, il faut financer la recherche, il faut financer les plateformes, donc les diagnostics, l'évaluation, l'orientation, mais financer les soins, le temps qu'il faut, c'est-à-dire quelques mois, quelques années, toute la vie, ça, ben non, parce que c'est chronicisant, vous voyez. Donc, bon... Donc, Fondamental, voilà, va faire tout son beurre là-dessus. Et les mecs qui se sont fait filmer le matin, eh ben, c'était les gens de Fondamental, qui le soir, à la radio, à la télé, ils avaient toutes les radios, toutes les télés pour dire « Oui, en fait, ces soignants qui se mobilisent, ben, ils ont raison, parce qu'en psychiatrie, il n'y a pas un problème de moyens, il y a un problème d'organisation. » Vous connaissez cette rengaine ? C'est pas que pour la psychiatrie. Bon. Donc c'est là où la psychiatrie, c'est à la fois une cristallisation de ce qui se passe dans le lien social, dans l'involution de la démocratie, mais aussi dans les tentatives instituantes d'autres formes démocratiques. Quoi. Bon. Alors, et ça, c'est important comme mise. Et du coup, après, je passerai la parole. Et je vais juste vous lire le truc. Donc, les légendes et tout, ils se sont dit, bon, on va venir quand même, on va soutenir les soignants, et puis on va aussi nous soutenir, nous, parce que si l'institué de l'hôpital public est détruit, bah, il n'y a plus rien, quoi. Mais alors, c'est ça aussi la question. C'est si l'institué de l'hôpital public est détruit par l'État et par l'hôpital public lui-même, ce qui est en train de se passer en ce moment, il faut aussi penser à des formes alternatives. Bon... Alors ça sera le débat pour la suite. Alors voilà ce qu'ils disent. Ça s'appelle le syndicat des patients impatients revendique. Et donc ça a été écrit pendant le groupe journal. Il y a quelqu'un qui a l'ordinateur qui tape tout ce qu'il entend. Et puis après, on relit vite fait et puis ça fait l'article. Il faut faire une grève. Ça ressemblerait à quoi une grève des patients ? Grève de l'écriture ? Ouais, ou alors on vend un journal de 60 pages avec marqué « en grève » dessus. Quand on fait grève, on fait appel à des syndicats. Il y a un syndicat de patients ? Comment on l'appellerait le syndicat ? Moi, je propose SPI, syndicat des patients impatients. SPI, c'est soins en péril imminent. C'est une forme d'hospitalisation sous contrainte. Bon. Ah, ça en jette. C'est quoi les revendications ? La défense des droits des patients. Qu'on ne nous pose pas dans des chambres à trois, donc deux chambres par personne. Il faut viser haut, sinon on n'aura rien. Si on avait le directeur de l'hôpital en face, on lui dirait du repos, du sommeil avant tout. Et plus de psychiatres, plus d'activités, plus de thérapies et la gratuité des cafés. Parce que bon, bah, on boit du café. Dans le... Et bar gratuit, mais juste pour moi. Les autres payent, c'est normal. On supprimerait pas les psychiatres ? Bah non, au contraire, il faudrait autant que de patients. Un psychiatre par chambre, ainsi que les psychologues. Un psychologue par patient et autant de stagiaires psychologues. Et vous, vos revendications ? Bah, moi, je me balade un peu pour l'instant. Moi, je demanderais de sortir de l'hôpital. Moi, je demanderais de mettre une piscine pour cet été avec des transats, un petit terrain de foot et des tennis. Un spa privé par chambre avec hammam et sauna. Et chambre climatisée. Mais après, on ne voudra plus partir de l'hôpital. Non, mais c'est vrai, mais on vivrait ici. Une télé dans chaque chambre. Avoir des passes aussi, comme dans les hôtels, ou une clé de chambre magnétique. Bon, le mec qui dit passe, il était un peu space, mais bon. Des frigos aussi dans les chambres. Comme ça, on pourrait conserver des merguez. Et une voiture aussi, une voiture de service. Au moins, avec toutes ces revendications, on aura peut-être du sucre. Bon, et en dessous, y a, bon, c'est, on fait des petites phrases, c'est 5 gilets jaunes valent mieux qu'un Khmer rouge. Bon, voilà.
Ben, sur l'histoire du sucre, à Toulouse, l'hôpital psychiatrique de Toulouse, c'est l'hôpital Marchand. Il y a eu deux révoltes. Et la première révolte, il y a 11 ans, s'appelait la révolte des petites cuillères. Où, en fait, il y a la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que... Bon, il y avait pas assez de sucre, justement, pour les goûter. Il y avait pas assez... Le café était rationné. Enfin, c'était une dosette par personne. Le beurre était rationné. Et y compris des petites cuillères. Mais quand on manquait de petites cuillères dans un service, ça n'était pas remplacé. Et il y avait certains soignants qui étaient obligés d'amener des petites cuillères pour compenser ces manques. Et ça a été la goutte d'eau, effectivement, qui a... Alors qu'il y avait plein de raisons de lutter, qu'il y avait des gens qui étaient à l'œuvre, des syndicats qui essayaient de faire bouger les choses pour que ça se mette en mouvement. Ce qui a condensé effectivement la lutte, la révolte des petites cuillères, et place du Capitole en plein conflit à l'époque, on faisait des prises de tension contre l'offre d'une petite cuillère. Les gens y venaient, ils nous offraient une petite cuillère, on prenait les tensions, mais en même temps, on parlait de la psy. Et c'est une des premières manifs à Toulouse qui a eu lieu, où il y a eu les patients et les soignants qui manifestaient ensemble. C'était quand même une première à ce niveau-là. La deuxième révolte, c'est l'an dernier. Moi, je suis à la retraite. Les soignants de l'hôpital ont campé pendant 2 mois et demi, 52 jours, devant l'hôpital, sur un lieu qui était aussi animé par les soignants, mais qui était un lieu de rencontre avec les patients, rencontre qui ne pouvait plus avoir lieu à l'intérieur de l'hôpital. Et ça a aussi laissé des traces à l'intérieur. Et comme tu le racontes dans tous les bouquins, même si on a eu l'impression de gagner quelque chose à l'issue des luttes, du Rouvray, enfin de Rouen, du Havre, etc., en fait, on n'a rien gagné. C'est-à-dire que les directions, elles font ce qu'elles veulent. Effectivement, on a fait débloquer 500 000 euros pour la psychiatrie toulousaine. Mais ces 500 000 euros ont été utilisés pour faire tout autre chose que ce que les personnels demandaient. Voilà. Et en même temps, oui, le livre, il y a quand même plusieurs parties. Il y a toute une partie où tu démontres quand même la connexion qu'il peut y avoir entre comment le politique et les politiques néolibérales vont à un moment donné imposer quasiment un axe clinique. C'est-à-dire que petit à petit, il y a pas mal de pratiques cliniques qui sont évacuées au profit d'une en particulier, et derrière laquelle on va retrouver de toute façon Big Pharma, on va retrouver des choses qui sont évaluables, qui peuvent rentrer dans les PMSI, enfin, dans tout ce que sont les cotations des actes dans les établissements, etc. Sauf qu'on ne peut pas coter un entretien ou le moment où on ouvre une porte, où on discute avec 3 personnes, etc. Ça n'intéresse pas les économes, ça n'intéresse pas nos financeurs. Il faut du quantifiable. Et il y a même une phrase dans le bouquin qui me fait penser, parce que tu racontes qu'ils ont évalué le coût en termes de productivité par rapport au produit intérieur brut que peut avoir la maladie mentale globalement en France et en Europe. Et on sent bien que nous sommes que des quantités et que des quantités à produire. C'est une réification totale de l'être humain qui se joue derrière. Après, il y a une partie qui est plus consacrée, effectivement, où c'est Lauriane qui parle de la pédopsychiatrie. Et il va y avoir des conflits à venir. Il y en a déjà un en cours sur l'Aquitaine, juste à côté, parce que la RS Aquitaine est en train de fermer les centres médicaux psychopédagogiques. Après, la stratégie des ARS et du gouvernement, c'est d'attaquer les régions les unes après les autres, pas tout en même temps, pour éviter qu'il y ait une révolte qui se mette en place et qui puisse être coordonnée. Et après, on attaque effectivement c'est pas un catalogue, c'est le contenu de toutes les luttes qui peuvent être menées, et elles sont nombreuses. Là, c'est juste sur les 2-3 dernières années. Mais il faut se dire que là, j'ai des collègues de la CGT de l'Avoir, moi je suis à la Sud Santé Sociaux, que ça fait quasiment plus de 30 ans que les syndicats en psychiatrie, notamment, ne sont plus à la défense de la fiche de paie, défense, etc., sont en défense de l'outil de soins. C'est-à-dire, sans que ça alerte qui que ce soit à l'extérieur, on est sorti de notre rôle quotidien, défense statut, fiche, même si on le fait encore, hein, mais de façon presque marginale. Mais ça fait plus de 30 ans qu'on alerte et qu'on est un lanceur d'alerte quasiment sur ce qui se passe en psychiatrie, qu'on essaye de porter à bout de bras effectivement les changements et l'évolution, mais avec l'impression de prêcher dans le désert. Et chose qui est encore pire, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, même avec la puissance des syndicats, on est dans l'incapacité de coordonner une lutte globale sur l'ensemble du territoire par rapport à la problématique. On peut accompagner localement, on met toutes les forces qu'on peut, mais sauf que ce sont des incendies, ce sont des explosions locales qui n'arrivent pas à mettre le feu effectivement à l'ensemble du système. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué, parce que tu as une phrase sur que les gens se replient dans l'ombre de la honte de leur pratique, qui est comme ça. Et c'est vrai qu'on a l'impression de plus en plus que... Alors, les soignants, plutôt que de se révolter, se replient sur eux-mêmes, se cachent dans l'ombre de cette honte. Certains, on en a discuté, vont développer des conduites addictives ou vont s'investir à toute autre chose. Et si par malheur, ils essayent quand même encore de revendiquer par rapport aux soins, etc., ben, ce sont des empêcheurs de tourner en rond. Ce qui est très dommageable aujourd'hui, c'est que la plupart, enfin, beaucoup des soignants qui sont très investis et qui vivent cette psychiatrie, qui auraient envie de revenir vers un courant de psychiatrie beaucoup plus humaniste, mais petit à petit, baissent les bras et s'en vont. Voilà. À l'issue de la lutte qui a eu lieu il y a un an et demi, un peu plus d'un an à l'hôpital, il y a quand même pas mal de soignants qui étaient investis dans la lutte, qui sont partis faire autre chose, parce que d'abord, il y a de la répression. Partout où on essaye de bouger, la répression, elle est là. Et puis ça devient totalement insoutenable. Alors, quand tu parles d'instituants et d'institués, effectivement, la réflexion se pose aujourd'hui sur le fait de est-ce qu'on peut être en capacité de trouver d'autres espaces, d'autres lieux où on puisse mettre en œuvre du soin et continuer à faire vivre quelque chose qu'on a essayé de porter à bout de bras pendant pas mal d'années. Voilà. Et pour terminer sur Marchand, moi, quand je suis rentré à Marchand, c'était un hôpital très maltraitant. Je ne vous donnerai pas d'anecdote dessus, mais c'était de la violence au quotidien. Il y avait Toulouse, c'est trois quarts de lits de clinique privée lucrative, c'est un quart de lits de psychiatrie publique, ce qui expliquait cette situation où on ne recevait, entre guillemets, que les agités et les indigents. Et à l'intérieur, c'était relativement atroce. Les choses ont pu changer. Il y a des équipes qui ont porté ça. Hein. Entre les années, au décours des années 80, cet hôpital avait tellement bien évolué qu'elle commençait à faire de l'ombre aux cliniques privées, où il y a des patients qui venaient en consultation. L'hôpital s'était ouvert, les pratiques avaient évolué. Mais ce que je voulais dire, c'est que on est pris dans des cycles, parce qu'il faut savoir qu'avant-guerre, il y avait un psychiatre médecin directeur qui s'appelait Maurice Did, et c'était un hôpital de référence pour à l'époque. Et Maurice Did disait, mais c'est normal, moi il est contre la contention, il était contre l'enfermement, et disait, mais il faut bien quand même qu'il y ait un lieu où la folie puisse se vivre. Bon, ça n'a pas plu. Ils ont envoyé un directeur administratif pour en finir avec ce médecin directeur militant qui est résistant, guerre d'Espagne, etc. C'était des gens qui étaient aussi engagés politiquement. Et moi, je termine sur une phrase que tu utilises aussi. Peut-être qu'au niveau du soin et des soignants, il faudrait remettre de la politique à la base, quoi. Et on a peut-être aujourd'hui cette carence dans l'analyse politique de ce qu'on fait, de ce qu'on produit et de quoi on est complice au quotidien. Voilà.
Ouais, alors, il y a un bouquin qui est bien à lire en ce moment, justement, c'est celui de Barbara Stiegler, qui s'appelle « Du cap aux grèves ». C'est chez Verdier, il est là-bas, j'ai vu. Parce qu'elle parle de la miniaturisation des luttes. C'est-à-dire, elle raconte comment le bouquin qu'elle a fait sur le néolibéralisme, là, il faut s'adapter, comment il se percute avec le moment des Gilets jaunes, et comment elle se rend compte que, bon, en tant que travail intellectuel, voilà, elle a l'habitude, mais là, elle va être engagée dans une lutte, et elle se rend compte qu'il faut absolument rencontrer les gens autour de soi déjà. C'était à un moment donné, elle raconte qu'elle se balade avec une carte de la ville et pour relier tous les points en lutte, pour voir la topographie elle-même, quoi. En se disant, bon, je suis invité tout le temps dans des colloques à droite, à gauche, je prends l'avion, dans les aéroports, on se fait contrôler, etc. Déjà, ça marque notre imaginaire de se faire contrôler tout le temps par les flics pour aller parler dans un autre lieu, devant un amphi. Et pourquoi faire ça, finalement? Pourquoi ne pas être là où on est, se placer là où on est et commencer à instituer des liens entre les gens là où on est? Bon, ça, moi, ça me parle beaucoup parce que dans le travail quotidien, par exemple, nous, donc à Asnières, c'est en banlieue parisienne, là, on est juste à côté de la ville de Gennevilliers, du théâtre de Gennevilliers. Alors, il se trouve, par des affinités militantes de rencontres, de machin, le directeur et la directrice adjointe du T2G, qu'on avait rencontré par le biais d'un lieu qui s'appelle la Fonderie au Mans. Enfin, vous voyez, c'est des histoires tout le temps de rencontres. Hein. On se trouve pris dans les mêmes logiques de comment une institution publique pense l'accueil, alors pour eux, l'accueil des usagers d'un théâtre, et nous, l'accueil des usagers de la psychiatrie. Et il y a un croisement parce qu'on fait un groupe théâtre là-bas. L'Assemblée générale du printemps de la psychiatrie, avec ses liens d'affinité, on l'a fait au théâtre de Gennevilliers. Et puis, il y a une altération réciproque dans la question de l'accueil pour eux et pour nous. D'ailleurs, certains patients disaient on est mieux reçu par Juliette au T2G que par Bellassène au CMP. Hein. Bon, et voilà. Et du coup, dans ce jeu-là, dans ces circulations-là, ça crée des liens, ça institue autrement des lieux et ça crée finalement un milieu, quoi. Alors, il y a le bouquin que je suis en train de lire de Baptiste Morisot aussi sur la question de comment un milieu peut soutenir, créer des relations là où justement, en ce moment, l'évolution capitalistique néolibérale détruit les relations aux choses, aux vivants, de manière générale. Et que, du coup, il faut que nos espaces soient des espaces d'institution d'une nouvelle modalité de faire avec le vivant, avec l'existant. Bon. Donc, dans ces circulations-là, se créent des rencontres. Et alors, on a appelé ça parce que, vous voyez, par exemple, le journal, on fait une radio aussi avec les patients. La radio, elle va interviewer des gens au théâtre. Bon, c'est minuscule, mais c'est énorme parce que ça crée des ouvertures pour tout le monde. Et notamment pour les soignants aussi en premier. Hein. Alors, il y a un autre truc sur les pratiques altératrices, parce qu'on emploie ce terme-là. En fait, avec Pierre Dardot, là, alors, il vient d'écrire « Dominé » avec Christian Laval, et puis on s'était rencontrés au moment où ils avaient écrit « La nouvelle raison du monde », essai sur la société néolibérale, et après ils ont écrit « Commun ». Alors « Commun », c'est un bouquin vachement important pour moi et puis pour nous, parce qu'ils ont un chapitre sur la praxis instituante, qui est en lien avec les discussions qu'on avait autour de la psychothérapie institutionnelle, c'est-à-dire de comment penser une transformation des milieux à partir de la pratique. C'est-à-dire que c'est plus à partir des idéologies politiques qu'on transforme l'imaginaire ou qu'on transforme le rapport au monde. On transforme les choses à partir de la pratique, c'est-à-dire comment tu te démerdes là où t'es pour faire avec ce qui se passe, quoi, là où t'es. Bon. Et donc, dans ces pratiques altératrices, c'est-à-dire... c'est un copain qui s'appelle Alfredo Oliveira, qui est aussi psychologue dans le service et qui a créé la radio Colifata, qui est la première radio qui a émis d'un hôpital psychiatrique en Argentine, au Borda. Alors, vous pouvez le voir dans le film de comment il s'appelle, je ne sais plus, qui s'appelle Tétro. Merde, j'ai oublié. Bon, bref, c'est un réalisateur américain très connu. Bon, ça ne vous dit rien? Merde, bon, t'es trop, bref. Bref, donc, Alfredo Oliveira, il crée la radio Colifata, ce qui va créer tout un tas de réseaux, de liens avec les gens, etc. Et c'est en Argentine. Et à ce moment, on se dit, voilà, on a une discussion sur, finalement, le moment démocratique dans lequel on est, c'est comment on peut instituer d'autres contre-pouvoirs. Et lui, il me dit, ouais, mais tu sais, pouvoir contre pouvoir, ça correspond à la séquence précédente, hégémonie contre hégémonie. Donc il faut inventer un autre truc. Et eux, ils avaient inventé la question du pouvoir altératif, enfin l'altératif, dans le sens où ce n'est pas de l'alternatif, parce que l'alternatif, quand on dit je suis l'alternatif, déjà c'est un peu haut comme présupposé, hein. Faut y aller doucement. Et donc ils avaient créé le truc d'altératif dans le sens de l'altération. Alors bon, et puis l'altération, ça sonne aussi avec toute la dimension de l'altérité, de comment l'altération. Cornelius Castoriadis, moi, c'est un auteur qui m'a vachement apporté, et vraiment que je vous recommande l'institution imaginaire de la société, parce que c'est une somme, quoi. Il parle justement de l'altération. Ce qui est très fort là-dedans, c'est par exemple, vous prenez des choses considérées comme immuables. En fait, ça ne peut pas exister, parce que le fait même que le temps passe altère les choses. Et ça peut altérer dans un sens propice à des émergences créatrices, comme ça peut l'altérer dans un sens destructeur. On ne sait pas par avance. Mais il faut faire un pari dans le sens qui nous intéresse, c'est-à-dire un sens émancipateur, quoi. Bon, et alors du coup, pratique altératrice. Après, dans la discussion avec Dardot, parce qu'il dit, bon, c'est plus français que pratique altérative. Bon, alors on a gardé pratique altératrice. Et dans les pratiques altératrices, ce qui est important, c'est comment vont se mêler différents plans de pratiques qui vont jouer les unes avec les autres et qui vont essayer de transformer un peu les choses. Un exemple très simple. Les seules avancées en psychiatrie qu'il y a eu ces 10 dernières années, c'est des avancées dans le champ du droit. Et c'est les psychiatrisés eux-mêmes par le biais du CRPA, qui est le CRPA, il est présidé par André Bitton, qui est, ça s'appelle, c'est le collectif de réflexion de psychiatrie et d'action. Et c'est eux, par exemple, qui ont fait de propositions et d'actions. Pardon, à chaque fois, je me plante. Pourtant, je suis adhérent et tout ça, mais je me plante. Bon. Et eux, ils ont fait casser la loi de 90. La loi de 1990, c'est la loi qui organise les hospitalisations sous contrainte. Hospitalisation à demande d'un tiers, hospitalisation d'office. Et du coup, qui donne... alors, c'est là où... quand ils font casser la loi, on est en 2009. Et en 2009... Donc, il va falloir refaire la loi. Mais c'est le moment aussi Sarkozy, le discours sécuritaire, le discours d'Anthony, tous les fous sont des criminels en puissance, il faut les enfermer, blablabla. Bon. Et du coup, vous allez avoir cette loi hybride qui va hybrider deux axes. Un axe de défense des libertés fondamentales des patients avec le juge qui est là comme garant des libertés des patients contre le pouvoir psychiatrique, mais qui, au fur et à mesure des usages, va devenir ce que montre Raymond Depardon dans le film 12 jours, à savoir... le juge va entériner finalement ce que dit le psychiatre, donc c'est qu'à moitié un contre-pouvoir. Mais dans les juridictions où il y a des avocats militants, etc., ben, il va y avoir des jurisprudences qui vont faire sortir les gens, qui vont combattre l'arbitraire, qui des fois, ça peut aussi produire des conneries. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui sortent parce que le juge leur donne et puis qui vont se foutre en l'air et tout ça. Mais ce qui compte là-dedans, c'est comment le droit peut être un contre-pouvoir ou ce que je vous disais, un pouvoir altérant. Et donc, dans cette réforme de 2009-2010, vous avez ce plan-là et vous avez le plan sécuritaire où, finalement, l'hôpital psychiatrique, auparavant, c'était le lieu de la contrainte. On disait, voilà, monsieur, vous êtes hospitalisé sous contrainte. Ça disait rien des soins qui s'y passaient. Ça disait juste que le mec, il devait rester là et puis c'est tout. La loi de 2010, de manière perverse, il est instauré un soin sans consentement. En fait, un soin sans consentement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous pouvez prendre des traitements sans consentement, on vous fait des injections, on vous fait, etc. Mais tout le boulot du soin, c'est justement d'obtenir le consentement, de l'adhésion de la personne, de faire qu'elle soit active par rapport à ce qu'elle lui arrive et qu'elle trouve les modalités pour faire avec sa vie et avec son milieu. Et puis, on ne sait pas par avance qu'est-ce qui va marcher. Bon, on n'a pas de boule de cristal. On ne peut pas dire, vous êtes bipolaire un jour, bipolaire toujours, vous prendrez un traitement toute votre vie, c'est une maladie chronique comme le cancer et le diabète, tout ce qu'on entend à la télé. Quoi. Ben, ça, c'est des conneries. Bon. De mon point de vue, c'est des conneries. Parce que ça enferme. Quoi. Bon. Et alors, du coup, vous avez ce truc de lutte à l'intérieur par le droit. Ben, moi, dans mon établissement, je finirai par cet exemple, là, au moment de la crise Covid, il y a eu une unité Covid qui s'est créée et toute personne qui arrivait, qu'elle soit hospitalisée de façon libre, c'est-à-dire en accord avec le fait de venir ou hospitalisée sans consentement, elle se faisait boucler à clé en chambre pendant 2-3 jours le temps d'avoir le test. Et quand elle avait le Covid, elle se retrouvait dans une unité Covid où elle se faisait boucler pendant 14 jours. On en parle aux collègues. Ah oui, non, mais quand même, il faut préserver, il ne faut pas que le virus se dissémine, etc. Moi, j'avais une patiente qui elle avait une maladie où habituellement, elle était confinée en chambre. Les gens qui ont la tuberculose, qui ont des leucémies ou qui ont des trucs comme ça, ils ont l'habitude de rester dans leur chambre à l'hôpital général. Personne n'aurait l'idée de fermer la porte à clé. Parce que les gens sont confinés, sont isolés, entre guillemets, mais ils ne sont pas isolés de façon psychiatrique. Bon. Et ben dans mon hôpital, les gens ont commencé à se dire bah si, tous les patients, on va les enfermer à clé, notamment cette patiente qui pouvait tout à fait rester en chambre. C'est-à-dire le préjugé d'irresponsabilité des malades mentaux, bah, il a la peau dure, hein, ça continue. Bon. Donc, avec les collègues du service, les copines psychiatres et les gens, les soignants, nous, on fait autrement, quoi. Et on se dit, bon, bah, alors tout de suite, on fait autrement. Donc, on est accusé de disséminer le virus dans l'hôpital, etc. etc. Bon. Et puis, un jour, ça va trop loin. Cette patiente-là, je voulais la voir dans l'unité Covid. Le médecin responsable et l'équipe ne voulaient pas, ne répondaient pas à mes appels. Donc, il a fallu attendre que je sois de garde pour pouvoir aller à l'unité en douce. Là, la patiente me raconte qu'elle vit un moment traumatique qui est lié à son histoire. Elle avait l'impression qu'elle se faisait déporter, quoi, et qu'elle était sans recours et qu'il n'y avait plus personne. Bon. Donc là-dessus, j'appelle son frère en disant qu'il faut porter plainte. Moi, je fais un signalement au procureur de la République et j'appelle le contrôleur des libertés en disant là, ce n'est pas possible. Il y a une confusion entre l'isolement psychiatrique et le confinement sanitaire. Bon. Donc, je fais ça. Et puis, quelques jours plus tard, Adeline Hazan et l'équipe du contrôleur des libertés arrivent à l'hôpital. C'était le 18 mai. Voient tout ça. Et un mois plus tard, il y a une recommandation en urgence qui est publiée au journal officiel, qui va directement au ministère de la Santé. Alors, il y a eu tout un tas de trucs dans la presse. Et du coup, ça a dû les pratiques d'enfermement ont dû s'arrêter net dans l'hôpital. Alors tout le monde m'en veut, bien entendu, parce que les psychiatres disant c'est pas confraternel, espèce de salaud, je leur dis je peux pas être confraternel quand on est complice d'un crime en cours, c'est pas possible. Et d'ailleurs, tous en tant que fonctionnaires, si on est amené à connaître qu'il y a un délit en cours, on est obligé de le signaler au procureur de la République. Alors pour la petite histoire, le procureur, quand je le saisis. Il dit oui, bon, on va instruire la plainte. J'ai pas de retour. Quand Adeline Hazan fait sa recommandation en urgence, le procureur me rappelle en disant mais on n'a pas reçu votre mail. Je dis, c'est bizarre parce que je vous ai envoyé un recommandé et puis le mail, je vous le renvoie parce que j'ai l'accusé de réception du mail. Donc je vous le renvoie. Bon. Donc voilà, la crise Covid, ça fait ça. Mais du coup, le contrôleur des libertés, c'est un contre-pouvoir institué puisque. Il est dans l'appareil d'État, quoi. C'est dont il faut se servir pour contraindre les pratiques dans un sens un peu plus émancipateur. C'est ce qu'a fait le CRPA. Là, en ce moment, ils ont attaqué sur l'isolement et la contention. Et donc, il doit y avoir une réforme là, d'ici le 1er janvier 2021 pour que la contention et l'isolement, donc la contention, c'est la camisole de force. Hein. L'isolement, c'est la chambre fermée, on est bouclé, etc. Pour qu'il y ait un recours aussi. Alors, il y a une discussion, est-ce qu'il faut que le juge intervienne ? Est-ce qu'il faut que ça soit une personne de confiance qui peut aider la personne enfermée à faire valoir ses droits, etc. Bon, il y a toute une discussion en cours. Mais là, le droit est un terrain d'affrontement et de lutte. Mais, et j'en reviens et je m'arrête après, et tout, quand en réunion soignants-soignés, les patients disent, bah voilà, quand même, il y en a marre, le lait, il est coupé à l'eau le matin, comment ça se fait ? Bah oui, mais il y a eu des restrictions de budget, on n'a pas assez de lait. Bon, mais là aussi, c'est facile de dire ça, on n'avait pas fait les commandes comme il fallait, hein, donc il faut aussi balayer devant notre porte. Bon, mais il y avait tout un tas de dysfonctionnements, et à un moment donné, moi je dis aux patients, mais écrivez à la commission des usagers, qui est l'organe dans l'institué de l'établissement, qui permet de traiter un petit peu toutes les plaintes des patients. Bon. Et puis, alors, ils disent, ouais, mais alors, c'est qui les représentants des usagers dans cette commission ? Eh bien, les représentants des usagers, ce ne sont que les familles des usagers. Alors, en l'occurrence, l'UNAFAM, qui est une grande association de familles. Mais en psychiatrie, si vous voulez, dans la démocratie sanitaire, les usagers, ça ne distingue pas qui est famille, qui est usager. Les usagers, c'est tout le monde qui est dans le système de soins. Quoi. Mais en psychiatrie, ça pose problème parce qu'il y a une divergence de fond entre les patients psychiatrisés et les familles. Les familles, certaines veulent que leur gamin ne fasse pas chier, à juste titre, parce que des fois, ils sont vraiment chiants. Mais il y a des fois, ils demandent... Le responsable de l'UNAFAM de mon coin, au conseil de surveillance, là où il y a les élus, là, après que j'ai fait intervenir à la Dinazan, il a quand même dit... Quand même, il y avait la crise Covid, on n'avait pas besoin en plus du contrôleur des libertés. Donc voilà, ça c'est. Vous voyez, la logique, c'est. Bon, ils se font boucler, mais bon, c'est pas si grave que ça. Hein. Bon. Et du coup, quand on dit aux patients, bah voilà, il faut. Non, il n'y a que des familles sur les sièges des usagers de la CDU, là. Comment on fait? Parce que nous, on aimerait bien se représenter. Alors du coup, moi je leur dis, bah. L'association et tout, elle devrait adhérer au CRPA, là, qui a fait les casser la loi de 90, parce que le CRPA est agréé par l'ARS Île-de-France pour représenter les usagers. Et comme ça, si vous adhérez, vous pouvez être représentant dans les instances officielles. Vous voyez ? Et alors, du coup, ils font ça. Et puis, du coup, le CRPA fait un recours au tribunal administratif en disant quand même, il n'y a pas d'usagers représentés dans les instances avec des familles. Et puis là, le tribunal administratif dit, enfin l'ARS dit, non, mais de toute façon, c'est la même chose. Du moment qu'il y a des familles, ça vaut pour, comme pour les patients. Quoi. Et donc, plainte au tribunal administratif. Et donc là, il y a un recours qui est en train d'être fait. Là, pour l'instant, on est débouté. Mais il y a un recours, mais c'est vachement intéressant parce que ça va peut-être ouvrir une porte au niveau du droit pour dire que les intérêts des familles et les intérêts des patients sont différents. Donc, il faut qu'il y ait des représentants des patients d'un côté et des représentants des familles de l'autre. C'est des petites choses. Et là, c'est au travail dans l'institué, mais lié à des pratiques cliniques qui soutiennent les gens dans la possibilité de faire contre-pouvoir, mais aussi de faire contre-pouvoir contre nous. C'est-à-dire, moi, je plaide pour que dans les réunions, les patients nous engueulent, nous disent « vous faites n'importe quoi » et « bande de salauds, vous me faites chier ». Il faut ça, parce que c'est ça la démocratie, c'est un espace de régulation des conflits, mais pour de vrai, pas pour de faux. Pas la démocratie sanitaire représentative actuelle, où c'est du blabla et vraiment, il n'y a rien de démocratique là-dedans. C'est le maintien d'un système d'oppression avec le vernis communicationnel. Quoi. Voilà. Et nos lieux, je pense qu'il faut qu'ils puissent se nourrir de ça. Donc, vous voyez, sur plein de plans différents. Sur le plan des pratiques concrètes, sur le plan du droit, sur le plan de comment on s'adresse aux interlocuteurs, et puis comment, par exemple, localement. Moi, ma mairie à Agnières, c'est une mairie de droite. C'est républicain. Ben, je m'entends très bien avec eux et c'est des soutiens concrètement dans les pratiques cliniques. Par exemple, là, ils nous ont filé un local gratos pour monter un groupe d'entraide mutuelle. Les patients, là, des tout et tout, ils sont autonomisés en disant, bon, on va monter un groupe d'entraide mutuelle, on les a un peu aidés, machin. Et puis voilà, la municipalité nous fait ça. Et puis, les liens avec les municipalités se font bien parce qu'ils se font à partir des pratiques. Par exemple... Moi, j'appelle la nana du logement. Elle me dit, bah, attends, je vais essayer de te démerder la situation. Elle m'appelle en disant, dis donc, on a cette personne qui ne va pas bien. Est-ce que tu ne pourrais pas la recevoir? Et puis, ça se fait comme ça. Et voilà. Et donc, il faut aussi avoir en tête, parce que sinon, on a le constat pessimiste de tout est foutu. Mais si vous voyez dans l'antre, l'obscurité, on peut dire, des pratiques, il y a aussi ça qui se fait. Et c'est là-dessus qu'il faut miser, je crois. Et c'est pour ça que moi, je tiens vraiment beaucoup à ce que raconte Dardo et Laval sur le commun. C'est-à-dire que c'est à partir des pratiques minuscules, mais comment ces pratiques minuscules vont se fédérer. Et Dardo, là, il y a un petit sur hors série qui est vous pouvez écouter, c'est des émissions, là, c'est lié à Arrêt sur Image, c'est 2 € par mois là, pour s'abonner. Et il y a une interview de Dardo qui dure 1h40 où il fait la distinction dans son bouquin, La Dominée, entre le fédéralisme et le fédératif. Comment on peut se fédérer à partir des pratiques. Par exemple, le truc dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une fédération de collectifs de soins qui crée un autre rapport aux choses et au monde. Alors, je pense que voilà, ça, c'est des formes nouvelles, mais c'est aussi des formes nouvelles qui ont émergé dans d'autres espaces de la société, hein, que ce soit les gilets jaunes comme forme émergente qui met en question radicalement la représentativité, qui invente des formes d'intelligence concrète sur c'est quoi la démocratie, sur les ronds-points, etc., de qu'est-ce que c'est que le quotidien? Voilà. Ben nous, dans nos lieux, le quotidien, c'est hyper important à penser. Et ça, la psychiatrie, elle l'oublie, le quotidien, maintenant, quand elle est trop intéressée par le cerveau et tout ça. les gilets jaunes, c'est aussi comment on pense le quotidien sur le rond-point, comment on pense l'occupation du rond-point. Voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont en friche, et c'est aussi ça le moment dans lequel on est. C'est un moment aussi qui peut être un moment d'ouverture. Alors certes, il y a la répression qui est très forte, mais on est aussi dans ce moment-là. Donc il faut appuyer là où on veut que ça aille, quoi.
Juste pour dire que le dernier numéro de Pratique, c'est les cahiers de la médecine utopique. La rubrique idée, c'est Barbara Stiegler qui nous a donné une interview de libérer la pensée des soignants. Donc là c'était aussi ciblé sur ces questions. Il y a un site Pratique, on peut le commander en ligne. Il n'est pas distribué effectivement dans les circuits classiques, et au fur et à mesure, il y a des articles qui sont en accès libre sur le site, hors abonnement de la revue. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions ou des points un peu à approfondir ou des choses à rajouter sur ce que nous a raconté Mathieu, qui se lance?
Donc bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation qui était très complète, surtout pour quelqu'un qui est novice dans le sujet. Et c'est pour ça que j'avais une petite question. Est-ce que vous pouvez revenir, il me semble que vous en avez parlé au tout début, sur l'idée de fossoyeurs dans la psychiatrie qui se font passer pour des héros qui tentent de donc sauver la pratique. J'aimerais bien... voilà.
Ouais. En fait, j'ai un petit blog sur Mediapart et il y a un article qui s'appelle « Les pompiers pyromanes de la psychiatrie ». Alors, si vous voulez, l'origine un peu de tout ça, c'est donc vous avez ce lobby là, je vous ai dit, qui est lié à l'Institut Montaigne. Mais au départ, en fait, c'est en psychiatrie, vous avez les centres hospitalo-universitaires qui ne sont pas comme dans le reste de la médecine, où dans le reste de la médecine, on prend en charge dans les centres hospitalo-universitaires les pathologies les plus complexes. En psychiatrie, c'est l'inverse. On prend en charge les gens qu'on peut trier très simplement. Quand c'est trop compliqué, on les refile ailleurs. Bon. Et donc, ces centres hospitalo-universitaires qui, pour la plupart, font une médecine psychiatrique, on peut dire tube à essai. Les gens sont en blouse blanche, tous. En fait, il y a deux façons de faire de la psychiatrie. Soit vous avez la voie de l'extérieur, c'est-à-dire vous objectivez la personne. Alors là, c'est tout le DSM, les troubles. On va vous saucissonner en troubles, mais vous êtes objectivé de l'extérieur. Mais faussement objectivé, parce qu'en fait, l'objectivation qui est faite n'est pas une vraie objectivation au sens de la science pure et dure, quoi. Bon. On mime une objectivation. Et vous avez une autre voie, c'est finalement comment vous pouvez aller aux enfers avec les patients, partager leur vécu. C'est la psychiatrie, on peut dire, de l'intérieur, pas du ministère de l'Intérieur. Psychiatrie qui va partir du vécu de la personne et où le thérapeute, le psychiatre ou le collectif de soins, l'équipe, va essayer de comprendre c'est quoi ce qui se passe dans la tête de la personne pour partager ça avec elle et puis pour essayer de construire un monde plus habitable pour elle à sa mesure et à sa façon, etc. Bon. Donc, vous avez en fait au départ, vous aviez en 1968, vous avez eu une scission parce que au départ, la neurologie et la psychiatrie, elles étaient ensemble. Ça s'appelait la neuropsychiatrie. En 68, sous le coup des gens de la psychothérapie institutionnelle, du désaliénisme et de tous les courants réformistes, voire certains révolutionnaires, c'était de dire qu'il ne faut pas confondre la psyché et le cerveau. En gros, hein, je vous la fais vite. Et donc en 68, il y a une partition en disant voilà, il va y avoir la médecine du psychisme, la psychiatrie, et puis la médecine du cerveau, la neurologie. Bon. Il y a toute une histoire de pouvoir qui va s'instaurer, et au fur et à mesure, l'objectivisme médical, comme l'appelle Castel, c'est pas Pierre-Henri Castel, c'est Castel, Robert Castel, putain, Robert Castel. Robert Castel, il dit voilà, il y a un retour de l'objectivisme médical, et ces gens en situation de pouvoir, les universitaires de psychiatrie, au fur et à mesure, ils vont récupérer les postes clés, ils vont récupérer la formation des internes de psychiatrie et ils vont former au fur et à mesure les gens à la psychiatrie de laboratoire. Et il va y avoir une technologie qui va répondre à cet imaginaire, et là on le montre dans le chapitre 2, c'est l'IRM fonctionnel. Parce que l'IRM fonctionnel, vous savez, c'est des IRM où on voit les images du cerveau. Genre, on voit le cerveau en mouvement, donc on voit les pensées en mouvement. Alors, moi, je déconstruis ça dans le chapitre 2 ou 3 du bouquin pour montrer qu'en fait, c'est des images qui sont construites, mais ces images, en fait, c'est des calculs mathématiques qui prennent la forme d'une image de cerveau. Et c'est beaucoup plus compliqué qu'on voit le cerveau penser. C'est, en fait, on voit... Enfin bon, faudrait rentrer dans le détail. Je vais pas le faire là parce que ça va être chiant. Ça va être chiant pour vous. Bon, bref, il y a cette rencontre avec cette technique d'IRM et ça va faire florès en psychiatrie. C'est-à-dire que va revenir l'idée que on va voir la zone de la schizophrénie, la zone de l'autisme, la zone du bipolaire. Et alors vous avez plein d'études avec un triomphalisme. Et une sorte de mystique conquérante hein, qui est de dire la zone du cerveau, le déficit cognitif dans la schizophrénie, c'est dans telle zone, etc. Et en fait, même à l'intérieur des neurosciences et des imageries fonctionnelles, vous avez plusieurs courants. Vous avez un courant localisationniste qui est comme le courant... vous aviez un mec au 19e siècle qui s'appelait Lombroso qui regardait les bosses, là. Vous savez, la bosse des maths, la bosse du crime, la bosse machin. Bah, c'est le courant localisationniste parce que c'est beaucoup plus simple à l'IRM de faire des études où on va localiser des choses, alors que vous pouvez faire d'autres types d'IRM qui sont comment il y a un fonctionnalisme, comment les choses circulent à l'intérieur du cerveau. Et alors là, c'est tout de suite plus le bordel et il y a beaucoup plus d'incertitudes. Et puis, même dans les zones où on voit, soi-disant, il y a autant d'études qu'il y a de zones et il y a autant de zones qu'il y a d'études. C'est-à-dire que, bon, et puis tout ça, c'est lié à comment est publié les impact factors, les revues soi-disant rationnelles, etc. Et où il y a même des conflits d'intérêts et tout ça dans ces revues. Bon. Donc progressivement, vous avez ce pan-là de la psychiatrie qui revient en force et qui va, au fur et à mesure, moi quand j'étais interne, j'étais président de l'Association nationale des internes de psychiatrie. Et à ce moment-là, ils voulaient réformer la formation des internes. Et on a fait une lutte politique avec Lauriane et puis avec d'autres copains pour dire bah, non, en fait, il ne faut pas confondre recherche en psychiatrie et recherche en neurosciences. Ça n'a rien à voir. La recherche en psychiatrie, c'est chercher comment on se démerde avec les gens tels qu'ils sont. Et la recherche en neurosciences, ça peut être une petite branche. La recherche en psychiatrie, pourquoi pas. Mais en fait, il n'y a eu aucune découverte par les neurosciences qui s'applique concrètement dans les pratiques quotidiennes, quoi. C'est-à-dire même les histoires qu'on vous vend, la remédiation cognitive, etc., c'est des modèles qui sont inventés, mais qui, d'abord, trient les patients. C'est que pour 6 mois, et au bout de 6 mois, une fois que vous avez fait votre remédiation, et si vous n'êtes pas guéri, vous démerdez. Bon. Donc, c'est ça qui est à la mode. Et donc, reviennent en force ça, et donc fondamental va avoir pour enjeu, pour idée, de fédérer l'ensemble de la psychiatrie comme l'Institut national du cancer. Parce que dans le bouquin sur la santé mentale, on parlait déjà du santé mentalisme, c'est-à-dire comment on a basculé de la psychiatrie à la santé mentale, mais comment la santé mentale, ce n'est plus du tout une idée de comment on va soigner les gens qui ont des troubles psychiques, pas du tout. La santé mentale, et c'est dans le livre vert de l'Union européenne, il est dit « Avoir une population en bonne santé mentale permettra de remplir les objectifs stratégiques de l'Union européenne. » C'est vraiment de la stratégie de Lisbonne, on a voté non, mais c'est oui quand même. Et du coup, c'est comment la ressource humaine, les gens, ont une santé mentale plutôt bonne qui fait que les investisseurs vont avoir confiance parce que comme ça, les gens ne sont pas en arrêt de travail tout le temps. Et c'est pour ça que ce que tu rappelais, Fondamental a communiqué énormément sur 4 trucs et c'est le discours santé mentaliste par excellence. C'est 3 à 4% du PIB part en mauvaise santé mentale. Donc, un, vous avez un gain d'économie pour la société. Et deux, vous avez un levier d'action. C'est-à-dire que si c'est 3 à 4 %, donnez-nous le fric à nous, Fondamental. Comme ça, on va vous faire des économies d'échelle massive. Bon. Il y avait ça. Il y avait la maladie mentale est une maladie comme les autres. Donc, on va importer les canons de la médecine techniciste en psychiatrie. Du coup, ça répond à leur modèle. Et ça répond au fait que si vous importez les canons de la médecine techniciste avec des techniques très cadrées, ça va répondre exactement et ça va être en congruence avec la rationalisation des soins, avec le financement des soins, la tarification de l'activité, par exemple. C'est vachement facile quand vous opérez, par exemple, quelqu'un d'une cataracte. Voilà. C'est un geste simple, très technique, et auquel va répondre un financement, voilà, comme ça. Et donc, si vous faites 50 cataractes, vous avez 50 fois tel financement. Et c'est cet imaginaire-là, et managérial, et rentabiliste, utilitariste, qui va s'importer en psychiatrie. Et donc, il va falloir que la psychiatrie se transforme pour s'adapter à cette façon de compter. Et donc, ça va créer une nouvelle forme de vie, un nouveau jeu de langage, aurait dit Wittgenstein. Mais les choses qui ne rentrent pas dans ce jeu de langage disparaissent. Donc, les pathologies, les personnes qui sont atteintes des pathologies les plus graves, comme elles ne rentrent plus dans les cadres qui sont les cadres rentabilistes, ben, ils disparaissent. Et donc, il va y avoir un double fond. Fondamental va dire, voilà, il faut déstigmatiser la maladie mentale. Mais cette déstigmatisation positive, elle répond à une ségrégation silencieuse négative, soit les gens qui sont de plus en plus en errance dans la rue, dans le métro, dans les bois, soit une ségrégation dans les dispositifs de haute sécurité, unité pour maladies difficiles, chambre d'isolement, contention qui reviennent, etc. Donc, à la déstigmatisation positive du santé-mentalisme, vous avez la ségrégation renforcée des dispositifs disciplinaires ou des dispositifs d'abandon. Bon. Et donc, fondamental va se servir ça. Le deuxième truc, le troisième truc, c'est la santé mentale est une priorité de santé publique. Et puis, je vous ai dit, et puis il y en a un autre, bon, je ne sais plus. Bon, et du coup, ils vont faire un gros travail culturel, on peut dire. Ils vont avoir les appuis d'emblée des gouvernements de droite, parce qu'à l'époque, c'est Sarkozy. Marie-Anne Monchamp, qui est secrétaire d'État au handicap, elle est vice-présidente de Fondamental. Bon, enfin, vous allez avoir tous ces liens-là. Et puis, du coup, au fur et à mesure, ils se structurent en réseau et c'est eux qui vont inventer les centres experts. C'est quoi les centres experts? C'est des centres experts par pathologie. Parce que, voilà, l'imaginaire de l'expertise est l'imaginaire de l'époque. Moi, il y a un beau bouquin qui s'appelle « La démocratie contre les experts », qui est d'un historien, et qui explique que dans la Grèce antique, les experts étaient des esclaves. Parce que ceux qui avaient le savoir, il ne fallait pas qu'ils aient le pouvoir. Parce qu'il faut que le pouvoir, ce soit le quidam qui puisse l'avoir, et que ce ne soit pas des gens en position de savoir, parce que sinon, ils vont pouvoir manipuler les gens. Et que finalement, la décision collective démocratique, elle ne doit pas reposer que sur le savoir. Ça doit être une délibération collective avec un éclairage du savoir. Mais la politique, elle ne se fonde pas sur des preuves, dans le sens où ce n'est pas les preuves qui organisent la politique. Et en fait, Fondamental, par le biais notamment de tout ce qui est le grand débat sur l'autisme, où là, ils sont dans tous ces débats-là pour dire bah, l'autisme, c'est une pathologie, c'est pas une pathologie, c'est un trouble neurodéveloppemental, et il ne faut pas que ça soit psychiatrisé, tout ça, et machin. Hein. Eh bien, ils vont... j'ai perdu le fil de mon idée. Je vais parler de Fondamental. Les centres experts, voilà. Voilà. Ils vont dire... Merci, putain, c'est bien qu'il y en a qui suivent, c'est cool. Ouf. Perte du cours de la pensée, ça y est, je commence à la schizophrénie, là, c'est... Bon. Donc, ils vont se dire, voilà, les centres experts, il y a des pathologies qui existent. Il y a la schizophrénie, trouble bipolaire, Asperger. Asperger, vous savez, c'est les gens autistes de luxe. Entre parenthèses, Asperger, c'est quand même un médecin qui avait des accointances nazies et qui a tué, non pas de ses mains, mais qui a envoyé faire tuer les gamins qui étaient anormaux. C'est-à-dire que les Asperger, il les gardait, les autres, il les envoyait se faire gazer. Il faut lire le livre noir de l'autisme, hein, les dossiers d'une historienne américaine. Bon. Donc, ils disent centre expert Asperger. Moi, maintenant, quand j'entends Asperger, ça me fait un peu froid dans le dos, et voir ailleurs. Bon. Donc, ils font des centres experts. Et alors, ces centres experts, en fait, c'est des plateformes d'évaluation et de diagnostic. Ça produit du compte-rendu. Donc, le patient arrive, et puis, on va lui faire une prise de sang, on va lui faire un IRM, on va lui faire passer des tests soi-disant objectifs, c'est-à-dire des grilles avec des cases. On va lui poser une batterie de 500 questions, comme ça. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'après, il va ressortir, entre guillemets, avec une prescription. Alors attention, c'est quoi? C'est faut que vous voyiez un psychiatre, faut que vous preniez des médicaments, faut faire de la remédiation cognitive, faut faire un petit peu de psychomotricité. Bon, voilà. Voilà. et puis démerdez-vous. Salut. Et le démerdez-vous, c'est soit aller voir des cabinets privés qui font ça, ça c'est dans le champ de l'autisme, commencer à restructurer les choses, soit c'est nous on fait pas, donc allez voir le secteur de psychiatrie, mais dans le secteur, nous, on se démerde pas forcément avec ces outils-là. Et puis surtout, moi je suis contre absolument cette psychiatrie-là. J'ai certains de mes patients qui vont dans les centres experts. Je leur dis, si ça vous fait du bien, très bien, allez-y. C'est dans les pratiques que chacun voit à midi à sa porte. Mais au niveau politique, je suis contre parce que c'est un détournement d'argent, des soins réels, vers des pratiques. Qu'est-ce qu'ils font après de la prise de sang et des imageries? Ils créent une base de données. Merde, je crache, ça, c'est pas bon pour le Covid. Je me recule. Ils créent une base de données. Et puis, là-dessus, ils vont développer des applications. Smartphone. Et voilà, et c'est ça la psychiatrie santé mentalisée. Maintenant, vous allez avoir... Alors, exemple que j'ai appris dans l'association de santé mentale du 13e, qui était un haut lieu du secteur de la psychothérapie institutionnelle au départ. Alors là, il y a des mecs là-dedans, avec d'autres, qui sont en train de développer un truc. Quand les patients sont hospitalisés, le problème, c'est qu'après, au centre médico-psychologique, ils ne voient pas le psychiatre. La consultation, elle est 1, 2, 3 mois après l'hospitalisation. Donc le mec, il sort de l'hôpital et il se trouve sans... psychiatre et il voit quasiment pas d'infirmier. Donc, plutôt que de militer, de se dire il faut plus de moyens, plus de gens, etc., qu'est-ce qu'ils développent ? Une montre connectée. Alors, c'est quoi la montre connectée ? C'est, vous donnez une montre au patient, vous lui offrez, voilà, ça va enregistrer son rythme cardiaque, son cycle nyctéméral, comment il s'endort, est-ce qu'il s'endort à la bonne heure ou pas, etc. Et puis, s'il se dérègle son sommeil, c'est un mauvais signe parce que vous sortez de l'hôpital, vous avez plus bien sommeil. Là, il y a un mec qui va l'appeler de la plateforme en disant « Bah alors, vous avez perdu le sommeil ?»« Ouais, j'ai perdu le sommeil. Bah, faudrait consulter. Ouais, mais je n'ai pas de consultation puisque c'est dans un mois. » Eh bien, on va vous donner un lien vers une application qui permet de mesurer votre état de santé mentale et de détresse. Enfin, et tout ça, alors c'est... Je caricature à peine. Google... C'est le case manager, voilà, c'est celui qui s'occupe du cas. Et Google et machin et tout ça sont en train de développer des trucs à fond. Et vous avez tout un marché qui va s'organiser. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est qu'ils se servent, c'est des data banks en fait, fondamentales. Et ils le vendent très cher au pouvoir public. Enfin, plutôt, nous, les citoyens, on paye très cher ce truc-là. Et encore une fois, c'est relié à l'Institut Montaigne. Et à d'autres, hein, parce que dans l'Institut Montaigne, je vous rappelle, il y a AXA, il y a LVMH, il y a des. Dans l'Institut Montaigne, il y a des cliniques privées, il y a des laboratoires pharmaceutiques, il y a Sanofi, il y a plein de gens, il y a L'Oréal, il y a Dassault, enfin bon, il y a plein de gens sympas. Et pourquoi ils investissent là-dedans ? Alors bon, il y a le côté charité, plus ou moins chrétienne dans certains cas. Il y a le côté intéressé parce qu'on évite de payer des impôts et puis on finance ce qui nous intéresse. Et puis, il y a le côté aussi de comment on va penser aussi le management aussi dans l'entreprise. Je racontais dans le bouquin sur la santé mentale, vous connaissez les histoires des tickets psy. Alors là, vous connaissez, non ? Vous ne connaissez pas, putain. Bon, et vous connaissez les tickets resto ?
Ouais.
Vous savez, la moitié des employeurs payent la moitié du ticket resto, vous payez l'autre moitié. Les tickets psy, c'est la même chose. C'est quand le DRH voit que vous vous isolez, que vous mangez seul à la cantine. Bon, maintenant, vous ne pouvez plus parce qu'il y a le Covid et qu'il faut être isolé. Et que vous êtes replié sur vous-même. Là, il remplit sa grille et puis il se dit « Il va bientôt se suicider. » C'est le moment où il y a les suicides d'Orange et tout. Il faut lire le bouquin de Sandra Lucbert, « Personne ne sort les fusils », qui parle de ça, là, le procès Orange et tout. Donc, c'est ce moment-là où Renault, les suicides, Orange, machin. Et donc, il va vous envoyer chez le psy. 20 séances gratos. À la 21e, vous devez payer, mais si vous vous suicidez, l'employeur a mis en place le dispositif. Et du coup, il est exonéré de sa responsabilité, puisqu'il vous a envoyé chez un psy. Et puis, si vous n'êtes pas soigné au bout de la 20e séance, mon pauvre, vous êtes incurable. Bon, voilà. Donc, ça, c'est la santé mentale moderne. Et alors, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Vous voyez, il faut déplier de manière large le truc. Mais et en ce moment, il s'impose comme une hégémonie, mais il ne faut pas les laisser faire. Quoi. Faut vraiment, et puis moi, je lutte vraiment pied à pied. Une fois, on a été invité sur Mediapart avec le co-auteur là, de, psychiatrie état d'urgence là, qui s'appelle Lorca. Mais vous voyez ces discussions, mais c'est zéro. Genre, c'est quoi les progrès pour lui de la psychiatrie ? C'est que les patients puissent être envoyés dans le travail. C'est-à-dire que la guérison ultime, c'est aller dans le travail. Vous connaissez le monde du travail en ce moment ? Vous voyez ce que c'est ? C'est un peu... moi, pour certains de mes patients, je leur dis, écoutez, vous savez, le monde du travail, c'est un peu de la merde. Là, vous avez votre alloc, engagez-vous dans des associations, faites des trucs, quoi, montrez-vous actif, et puis vous ne travaillez pas, on s'en fout. Enfin, franchement, il y a des fois, il vaut mieux pas travailler dans un ESAT, c'est un centre d'aide par le travail, un truc comme ça. Vaut mieux être dans une association et puis faire chier en étant psychiatrisé pour ses droits, plutôt que d'aller au turbin et de payer rien. Et par exemple, dans les ESAT, il n'y a pas de syndicat de patients. Ça n'existe pas, les syndicats de travailleurs dans les ESAT, par exemple. Bon, voilà, vous avez des trucs comme ça. Donc, il y a des choses à faire. Donc, le travail comme horizon ultime de la guérison. Et donc, eux, ce qu'ils proposent, alors voilà, ça pour les Asperger, Andros, l'entreprise Andros, se félicite d'employer des gens neurodivers, donc autistes et tout ça. Et puis, alors, qu'est-ce qu'ils font ? Quand le gars il est trop stressé, pareil, il a une montre, et là tu as le case manager qui l'appelle, qui dit oh là là, vous êtes stressé, là prenez une pause. Donc, si on pense qu'on va résoudre les problèmes d'entrée dans le lien social, parce que nos patients ils ont une pathologie du lien social, je dis nos patients, voilà. Les personnes psychiatriques, bon, voilà, je parle comme ça, ils ont une pathologie du lien social. Si c'est les machines qui leur répondent, c'est raté, les gars. Hein. On voit déjà, nous, avec nos smartphones, machin, comment on s'isole à la con, on est tout le temps dessus. La question, c'est comment on va penser un monde d'entrer dans le lien à l'autre, quoi. Et si la psychiatrie, elle abandonne ça, c'est mal barré pour tout le reste. Hein. Parce que nous, c'est notre cœur de boutique, hein, on peut dire. Bon, voilà.
Par rapport au connecté, bon... Ils ont fait une première tentative, ils l'ont retiré du marché, mais ça va pas tarder à la deuxième génération. Maintenant, ils font des médicaments connectés pour pouvoir vérifier à distance si les personnes ont pris leur traitement ou pas. Donc, c'est toujours dans le complément de ce que tu disais par rapport au passeport bipolaire. Oui,
alors, ouais. Médicaments connectés, alors c'est génial. Le gars, il bouffe son médoc. Et puis là, il y a une substance qui prévient son smartphone là, par radio-émission qu'il a bien pris le médicament et c'est envoyé aussi aux personnes de confiance et aux proches qui est sûr qu'il a bien pris le traitement. Alors, il paraît que si vous le mettez dans un verre d'eau, ça fait le même truc. Donc, c'est cool. Voilà, c'est déjà détourné. Donc, il faut un peu hacker ces conneries-là. Bon, mais bah, c'est assez ahurissant, un peu effrayant. Mais il faut quand même un petit peu en jouer aussi. C'est-à-dire que c'est la folie, si on pense que la folie, c'est, ce qui c'est à la fois le microscope du lien social et c'est ce qui résiste, ou la différence, quoi, ce qui résiste aux normes, etc. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, de toute façon, que ce soit du côté de l'émancipation, du côté de la ségrégation, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, de toute façon, ça résistera. Les choses prévues par avance ne marchent pas. Et donc, c'est à partir de cet imprévu, de ce désajustement, que vous pouvez travailler. Là, ce qui est choisi en ce moment comme politique pour la psychiatrie, c'est non pas de partir à partir du désajustement, mais c'est de contraindre le désajustement à être ajusté aux normes en vigueur. Et c'est un peu ce que je racontais là dans la santé mentale, c'était de dire, là où auparavant, on a essayé de construire des dispositifs de soins à partir de ce qu'avaient besoin les personnes, maintenant, on demande aux personnes de s'adapter aux dispositifs de soins concrets. C'est la logique de Barbara Stiegler. Il faut s'adapter. Un nouvel impératif politique, c'est-à-dire qu'il faut que les patients s'adaptent. Alors, à nous, alors c'est ça la catastrophe. Et puis les soignants commencent à penser ça aussi. C'est-à-dire que quand même, un patient qui est hospitalisé, ouais, t'as vu comme il délire. Ouais, en fait, il est là pour ça, en fait. Du coup, et comme disent UMAPSI, qui est une association de patients, ils disent, voilà, le délire ne parle qu'à celui qui l'écoute. Voilà. Et eux, ils disent aussi de l'écoute, pas que des gouttes. Et puis ils disent aussi la santé mentale c'est bon pour le capital et puis ils disent plein de trucs la ferme ou je t'enferme mais voilà pas de contention de l'imagination et ça c'est tout ça c'est vivant donc voilà c'est la psychiatrie que moi je non pas seulement défendre mais que je veux inventer créer et tisser avec les gens parties prenantes c'est un truc qui remet en question un peu tout quoi mais qui le remet en question pas d'un point de vue extérieur qui le remet en question à la fois dans l'institution, c'est-à-dire bon bah, ouais, bah je suis médecin chef dans le service public, bon bah je suis dedans quoi, et qu'il remet aussi en, de l'extérieur, c'est-à-dire quand je suis militant politique, je peux dire des trucs que je pourrais pas dire dans l'institution, mais ça va nourrir aussi mon rapport à l'institution. Bon, vous voyez, c'est des jeux dialectiques à chaque fois. Bon, voilà.
Vous m'entendez? Ouais. Bonsoir. Moi, je voulais réagir par rapport à cette question de transformer à partir de la pratique. En fait, du coup, moi, de où je parle, moi, je suis éducatrice spécialisée, pas en psychiatrie, en prévention, voilà, en prévention généraliste pour les ados. Et du coup, ça me parle, mais en même temps, je me demande concrètement, nous, par exemple, dans le travail social, plus en dehors de la psychiatrie en tout cas, on est soumis maintenant à des logiques de financement par les appels à projets. Et donc, c'est une vraie question aujourd'hui de comment est-ce qu'on peut partir de notre pratique pour défendre des projets qui seraient financés d'une façon ou d'une autre, puisque finalement, aujourd'hui, c'est les appels à projets qui sont qui décident de qu'est-ce qui va être financé et donc qui, finalement, décident de notre pratique, quoi. Et c'est très... Enfin, voilà, du coup, je... Comment, en fait ? Comment on fait pour partir de la pratique quand ce qui nous permet de travailler, qui reste quand même les financements, décide de ce qu'on a le droit ou finalement de mettre en place ou pas, avant que nous-mêmes, on ait pu le proposer.
Il faut tous les biaiser, les appels à projets. Hein. Dans le sens où, nous aussi, on a ça, par exemple, pour Culture à l'hôpital, il faut rentrer dans les cadres, etc. Alors déjà, il faut essayer... Moi, je connais toute la novlangue. Avec la santé mentale, c'était bien. Je connais tous les... Donc, vous pouvez faire des pâtés de novlangue. Et alors, les gens trouvent ça génial. Oh là, ouais. C'est très innovant parce que, bon, la disruption et machin, mais vous employez toutes les conneries. Bon, ça, c'est un premier truc un peu tactique. Faut pas avoir peur d'employer la langue de l'ennemi. On va pas se travestir. Ça, c'est le vieux débat de si je prends la langue de l'ennemi, je me contamine moi-même. De toute façon, on est déjà contaminé, hein, les gars, donc on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est instituer un espace de jeu quand on fait ça. Moi, quand je fais des appels à projets, en général, on se marre parce qu'on le fait avec les collègues. Et puis, on invente des phrases à la con, quoi. Comme ça, puis ça passe très bien. Et puis après, ils rebondissent. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas fétichiser l'appel à projet. C'est-à-dire que maintenant... Ils pensent comme innovants des trucs qu'on fait. Il faut leur dire que c'est nouveau. Par exemple, là, ce qu'on fait avec les patients, l'activité, la co-responsabilité, la co-décision, alors, vous employez tout la novlangue, machin, puis ils vont dire, ah, mais c'est super, ah, mais c'est génial, mais voilà, c'est très bien. Formation innovante. Bon, d'accord. Alors, le problème, c'est que ça prend un temps de dingue. Donc, si vous n'avez pas un peu de jeu, vous n'allez pas avoir trop de libido pour écrire le truc, et vous allez vous faire chier. Et puis, donc, il faut le faire à plusieurs hein, aussi, ça, c'est important. Et moi, j'ai des copains qui ont créé la trame dans le 93. Alors, le 93, Seine-Saint-Denis, territoire déshérité. Mais comme c'est un territoire déshérité, il y a plus de marge de manœuvre. Paradoxe, mais voilà. Et eux, ils sont passés par la CNSA, donc la Caisse nationale, la machin de solidarité, tout ça. Ils ont créé une réponse à un appel à projet à partir de accueil inconditionnel. Alors, au départ, ils avaient un SAVS, un service d'accompagnement à la vie sociale, un groupe d'entraide mutuelle, tout un tas de trucs. Et ils ont créé un truc, mais vraiment hyper radical, en faisant la novlangue, et qui est maintenant expérience pilote. Là, l'autre jour, le connard de délégué ministériel à la psychiatrie, la Franck Bélivier. Je dis connard, c'est un bon ami. C'est pas vrai, c'est un ennemi. Et ben, il y avait une réunion au ministère de la Santé, un grand ramdam avec toutes les vitrines. Il y avait la trame comme vitrine. Et les copains de la trame, ils viennent. Alors, le copain en question, on s'est rencontré à la Borde quand on faisait un stage là-bas. Un autre, il était dans un lycée autogéré. Voilà. Et c'est un groupe de punk alternatif qui fait des chansons sur Tosquelles et Bonafé. Enfin bon, des mecs comme ça, vraiment des vénères. Bon, et ben, ils réussissent à faire ça. Mais voilà, ils ne sont pas seuls. Ils ont des appuis avec des gens qui ne sont pas juste dans les institutions. Par exemple, si vous êtes juste dans l'institution médico-sociale ou sociale, si vous n'avez pas, mettons, des appuis d'élus, de la mairie, enfin des gens un peu qui ont l'entre-gens, on peut dire, ça marchera moins bien. C'est-à-dire qu'il faut faire tout ce travail un peu préalable. Et puis, quand vous n'allez plus avoir la subvention, parce qu'il faudra refaire l'appel à projet, ils diront, bah non, vous l'avez déjà eu, vous l'aurez pu. Si vous avez fait tout ce travail de lien, vous pourrez faire une petite mobilisation qui, localement, peut mieux marcher que les mobilisations nationales qui ne marchent pas en ce moment. Donc, alors, il y a ça. Et puis, il y a aussi l'autre chose, c'est que moi, on a été invité à Notre-Dame-des-Landes là, avec Lauriane en juin sur la ZAD. C'était à la Rolandière. Et on a passé un week-end là-bas. On a eu toute une discussion là, pendant tout le week-end avec les copains de là-bas sur comment penser un service public au moment où l'État détruit toute possibilité de service public. Bon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir la mystique de l'État. L'État, c'est une domination qui, là, en ce moment, comme c'est un État néolibéral, bah, il détruit toute possibilité de faire les choses qui rendent vraiment service aux gens. Quoi. Bon. Donc, il faut penser aussi une alternative un peu ailleurs. Alors, peut-être sous la forme de la ZAD, sur comment on peut créer une sorte de ZAD de soins, à penser. Comment, moi, je suis en train de faire une réunion là, avec, par le biais du théâtre de Gennevilliers, j'ai rencontré le maire de Gennevilliers et puis la députée du coin, là, c'est Elsa Faucillon. Et du coup, on a organisé une rencontre. Et puis le maire, il dit, il faut créer un truc de psychiatrie populaire. Donc, on va faire une rencontre avec des maires intéressés pour essayer de voir si on ne peut pas penser une sorte de communalisation de la psychiatrie. C'est-à-dire que pourquoi pas faire du secteur? Si l'hôpital public, c'est plus possible de le faire là, peut-être qu'on peut le faire sur la base municipale, dans des lieux un petit peu... Il paraît qu'en Belgique, ça marche comme ça. Les centres de santé appartiennent à un quartier. Les gens cotisent dans le quartier pour ce centre de santé. Et du coup, décident ensemble, une sorte d'autogouvernement de la santé, quoi, décident ensemble de qu'est-ce qu'on fait pour ce centre de santé, etc. Donc peut-être c'est des formes comme ça aussi qu'il faut penser. Mais je pense qu'il faut répondre aux appels à projets. Il ne faut pas trop se faire berner par le fait qu'on ait des monstres collabos. Ben non, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais par contre, il faut absolument penser et travailler aux alternatives et puis partager avec les copains qui font aussi d'autres appels à projets, c'est quoi leur truc. Nous, quand on a fait l'appel à projet, bah, j'avais demandé à des copains qui avaient déjà fait l'appel à projet leur brouillon, là. Enfin, même le truc. Puis j'ai piqué des phrases et puis voilà, et puis c'est comme ça. Hein. Et puis voilà. Enfin, c'est des petits trucs, quoi, vous voyez. Mais il faut aussi avoir des bases d'échange de ces trucs-là. C'est-à-dire que si vous... Par exemple, je ne sais pas si vous êtes dans le coin, bah dans le coin, il faut se brancher avec les copains du coin. Par exemple, sur la ZAD, moi, j'ai rencontré quelqu'un, bah, je ne sais pas si elle est là, qui est éduque ici à Toulouse et qui viendra demain soir à Lavore, là, parce qu'on fait une rencontre avec les psychoses, le collectif des psychoses qui anime des rencontres à Lavore. Bah, faut se brancher aussi avec les psychoses, faut se brancher avec les gens qui militent, militantes, pour avoir des idées. Faut pas rester seul, il faut se partager les idées. C'est bon, petit conseil, quoi, mais qui sont un peu ras des pâquerettes, mais qui sont utiles quand même.
Non, je reprenais sur le. Pour revenir sur le bouquin, où effectivement, manipulation scientiste, réduction de l'interdisciplinarité, instrumentalisation des associations et familles. Et à un moment donné, tu fais état d'un financement qui ressemble un peu à l'APA, à l'allocation personnes âgées, où les gens ils touchent, ils deviennent employeurs. Ils essayent de créer une relation pour transformer la personne qui reçoit les soins en employeur.
Ouais, alors en fait, le truc, c'est les plateformes. Ça demande des familles de gosses avec des troubles du neurodéveloppement, autisme, machin. C'était de dire, bon, il y en a marre de financer le service public, les hôpitaux de jour, ils font n'importe quoi, les professionnels, c'est stigmatisant. Filez-nous une alloc. Et puis nous, en plus, maintenant, on n'est plus parents, on est aidants familiaux. Alors, donc, filez-nous les 800, 1000, 1200 balles, voire plus, une sorte de forfait comme ça. Et c'est à nous, en tant qu'acteurs rationnels des soins, d'embaucher un éducateur, d'embaucher un psychomotricien, d'embaucher un orthophoniste, etc. Bon. Et donc, c'est dans le chapitre sur l'autisme, là, Lauriane, elle parle de la privatisation des soins à la privation de soins. Parce que cette logique de plateforme, en fait, elle est là pour que les gens puissent avoir une allocation supplémentaire, alors par exemple les aidants, mais l'objectif, c'est de définancer le service public. Et alors, le truc génial qu'ils ont trouvé pour définancer le service public, c'est plutôt de dire on définance le service public, on va dire, ouais, dans le public, il y a plein de méchants psychanalystes qui culpabilisent les maires, tout le truc qu'on entend. Oui, il y a eu des dérives, oui, il y a eu des gens qui ont culpabilisé, oui, blablabla, d'accord. Ok, mais en fait, la logique, ce n'est pas une logique idéologique sur quelle méthode la psychanalyse ou pas. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de financer le service public et de créer des cabinets privés qui vont fournir des prestations pour les personnes. Voilà. Et donc, vous avez la logique d'ubérisation qui se met en place. Et la Nouvelle-Aquitaine, c'est l'exemple de ça. C'est-à-dire que vous aviez des institutions, les CMPP, les centres médico-psychopédagogiques, qui sont financés par la Sécurité sociale. C'est des lieux de consultation gratuits, ouverts à tous, à tous les gamins. Et notamment aux gamins qui ont des carences affectives, qui sont placés, qui ont des problèmes, etc., d'existence. Là, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine dit « ça suffit ». Maintenant, les CMPP, ça va être pour les troubles du neurodéveloppement. Donc, tous les autres, salut, t'es à la ZEU, t'es placé en foyer, tu t'es fait maltraiter, t'as une névrose, une psychose, un état limite, etc. On s'en fout, on s'occupera plus de toi. Par contre, on s'occupera des troubles du neurodéveloppement parce que c'est quand même Brigitte Macron, elle s'intéresse à l'autisme. Hein, et puis, c'est une grande cause nationale. Et puis, voilà, c'est porteur. Et donc, on transforme les CMPP en plateforme et on dit aux professionnels, vous avez un an pour transformer vos pratiques, pour répondre au cahier des charges, sinon vous disparaissez. Et comme c'est nous qui vous finançons, là, nous, l'ARS, on coupe les budgets et puis c'est tout. Et donc là, en ce moment, vous avez des lieux qui sont en train de fermer avec des gosses qui étaient suivis et qui ne seront plus suivis. Voilà, c'est ça la logique. Et au départ, voilà, c'était présenté comme une bataille idéologique de méthode. Vous voyez, c'est vachement malin. Sauf que ça arrive aussi en psychiatrie adulte. Et Lauriane, elle insistait sur le fait que l'autisme a été un laboratoire à la fois des transformations des pratiques et un laboratoire du néolibéralisme. Parce que là-dedans, il y avait tout. Il y avait le fait de comment c'est le cerveau qui va créer une gouvernementalité, quoi, qui va créer une forme de pouvoir sur l'individu et à partir duquel on va agir sur l'individu. C'est-à-dire que si on agit sur le cerveau, eh bien, la personne va pouvoir se montrer plus rationnelle. Et donc, toute l'intervention des soins de l'accompagnement aura pour objectif le cerveau. Bon. Mais ça, c'est aussi l'imaginaire cérébral de l'ensemble de la société, ce qu'on appelle, avec Dardo et Laval, ça, la neuropolitique. Quoi. C'est-à-dire comment le cerveau devient un espace, un point d'appui nouveau pour le néolibéralisme. Quoi. C'est-à-dire, c'est dans votre cerveau que ça se passe. Ça permet de naturaliser tout un tas de politiques. Ça permet de naturaliser tout un tas de faits environnementaux, de milieux, de faits sociaux. Je ne sais plus qui, là. Il paraît qu'il y en a une là qui va avoir le prix Nobel de je ne sais pas quoi parce qu'elle a trouvé l'instinct maternel chez des rats. Vous voyez la naturalisation, quand même. Donc, bon, l'instinct maternel, déjà, bon, OK. Ensuite, chez un rat, l'instinct maternel. Et donc, oui, ça veut dire qu'on a trouvé la zone de l'instinct maternel chez les femmes, quoi. Vous rendez compte le réductionnisme, quand même. Bon, bref. Donc, voilà, c'est un petit peu... c'est ça qui se passe en ce moment au niveau des pratiques. Et... Bon, mais là aussi, il ne faut pas laisser passer. Peut-être qu'on ne sera pas victorieux dans cette lutte, c'est le plus probable, mais n'empêche que si vous laissez passer, vous trahissez aussi. Donc, il faut y aller, quoi. Il faut monter au front et puis on verra. Et de toute façon, monter au front, ça laisse des traces dans les soubassements de la société, quoi qu'il arrive. Et ces traces, elles rejailliront à un moment donné ou à un autre. Ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, ça laisse des sillons. Ça va revenir. Quand même, pendant Nuit debout, on se dit, putain, c'est nouveau. Hein. Après, il y a la réforme contre les retraites. Ça n'a jamais été aussi. Après, les gilets jaunes, enfin, ça n'arrête pas de monter. Donc bon, il faut continuer, quoi.
avant que ce soit l'IRM, c'était la génétique qui allait être toute puissante. On allait découvrir le gène de la schizophrénie. Ils avaient même trouvé un gène de la criminalité chez les Corses. Ça, c'était... Non, mais c'est... Ça a été plus de non. Il y a eu des publications là-dessus. C'était il y a 40 ans de ça. C'était les débuts de la. Mais on avait enfin l'explication du monde et tout était permis, comme aujourd'hui avec l'IRM, effectivement.
Pour conclure, et sur un bouquin qu'il faut peut-être acheter, en tout cas lire. J'en parlais tout à l'heure. C'est le bouquin de Baptiste Morisot là sur le vivant. Merde. Manière d'être vivant. Parce que la question de la naturalisation, c'est un processus qu'il faut absolument combattre. Et lui, il parle de naturalisation de la nature elle-même. Et la naturalisation des liens, des relations qu'il y a entre les vivants. C'est-à-dire que son bouquin, c'est de dire, là, c'est marqué dans la quatrième de couverture, en plus, ça fait comme ça fait semblant que je l'ai lu. Il dit que c'est quand même bizarre qu'une espèce ait réussi à silencier 10 millions d'espèces. Et que pour silencier 10 millions d'espèces, l'être humain a naturalisé les vivants. C'est-à-dire, il les a écartés en disant ce sont des objets, ce sont des automates, alors ça c'est Descartes et machin, ou ce sont la nature qu'il faut protéger, mais on ne dit pas ce qui se passe de ce milieu vivant et de notre relation, nous, à ce milieu vivant. Et alors, de manière métaphorique, il parle beaucoup d'altérité, de manière métaphorique, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on travaille, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille la question des relations, que ce soit les relations aux existants, voilà, la psychiatrie, la politique, le lien là, entre les gens présents, avec la destructivité inhérente à ce lien-là aussi, qu'on ne se leurre pas sur le fait qu'il y a des espaces et des zones de destructivité en nous et entre nous. Ça fait partie aussi des relations et de ce qu'il y a de vivant, parce que la destruction fait partie aussi de la vie. Et il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de la naturalisation, qui est le grand piège actuel, je pense, politique, qui nous est tendu à longueur de journée. Voilà.
Sur livre où dormir.